Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Logiciel libre dans l'éducation nationale, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Logiciel libre dans l'Oise, et aussi le confinement vécu par une entreprise du logiciel libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, FM en Ile-de-France, et en plus également, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org et vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec les liens et les références utiles, les détails sur les pauses musicales. Nous sommes mardi 5 mai 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que depuis le début du confinement de la population, nous diffusions dans des conditions exceptionnelles. Et aujourd'hui, d'un point de vue technique, nous continuons d'utiliser le logiciel Mumble, un logiciel libre d'audioconférence que vous pouvez tester et utiliser notamment via le serveur Chapril, donc sur chapril.org, pour vos audioconférences personnelles. Ce service est totalement libre d'utilisation. Si vous voulez souhaiter réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse, libre à vous. Nous vous souhaitons excellente écoute. Alors le programme détaillé de l'émission du jour, nous allons commencer dans quelques secondes par prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciel libre qui s'appelle Easter Eggs. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le logiciel libre dans l'éducation nationale. Et en fin d'émission, nous aurons un point sur le logiciel libre dans l'Oise. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William Agasvari. Alors tout de suite, on va passer directement au premier sujet sans transition. Donc nous allons commencer par prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciel libre Easter Eggs avec Pierre-Yves Dillard. Pierre-Yves, bonjour. Ah, est-ce que Pierre-Yves est avec nous? Pierre-Yves Dillard? Non? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu le programme et on récupérera Pierre-Yves tout à l'heure quand il aura réglé son problème de micro. Donc on va passer à un sujet, alors le sujet principal de l'émission, donc éducation et logiciel libre, enfin éducation nationale et logiciel libre, je précise, donc avec Luc Bourdeau. Luc, tu es responsable du pôle de compétences nationales logiciel libre qu'on appelle le pôle EOL, et au sein de l'équipe de la plateforme Apps Éducation dont on va parler en détail aujourd'hui, tu es chargé du pilotage des développements et de l'intégration des composants libres. C'est bien ça, Luc ?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Alors, donc en tout cas, je te remercie de participer à cette émission. En introduction, c'est peut-être un effet un peu, peut-être inattendu de la crise du Covid-19 et du confinement de la population, parce que le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme donc, qui s'appelle apps.education.fr, alors apps, c'est A-P-P-S, qui propose une liste d'outils pour répondre aux besoins du travail à distance pendant le confinement. Et on a voulu en savoir plus, donc on a essayé d'avoir un intervenant, et finalement on a réussi et donc à t'avoir, Luc, pour parler notamment de cette initiative et puis un peu plus globalement de ce que fait le pôle de compétences nationales logiciel libre, le pôle EOL. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission si vous voulez réagir, poser des questions à Luc, hein, donc c'est le site causecommune.fm, bouton de chat, et le salon libre à vous. Et évidemment, toutes les références dont on va citer aujourd'hui, les sites web, vous les retrouverez sur les pages consacrées à l'émission, sur april.org et sur causecommune.fm. Alors déjà, première question, Luc, peut-être une petite présentation personnelle.
Je m'appelle Luc Bourdeau. Je suis un ancien de l'informatique puisque j'ai commencé dans les années 80 par faire du COBOL. Hein. Donc, je sais pas si ça dit des choses à tes gens, mais voilà. J'étais développeur. Donc, à l'époque, on disait programmeur. Et, assez rapidement, je suis passé sous Unix, qui est quelque part un peu le grand-papa de Linux. Et j'ai fait pas mal de développement système, et c'est comme ça que petit à petit j'ai bifurqué vers une carrière plus orientée système et réseau. J'étais ingénieur système réseau dans l'Académie de Dijon, et dans les années 98 à peu près, il y a eu le projet de raccorder les établissements scolaires à l'internet, et j'ai été chargé de m'occuper de ça. Et en fait, j'ai constaté à l'époque qu'il y avait quand même un sacré problème de sécurité et de partage de connexion, puisqu'on est en numérisme, enfin bon, voilà. Et il n'y avait pas vraiment de solution qui existait. C'est comme ça que m'est venue l'idée de réaliser le pare-feu, un pare-feu pour les établissements scolaires qui s'appelle AMON, qui a donc été le premier module d'EOL. Ce pare-feu avait la particularité de pouvoir faire partager la connexion Internet aussi bien par les administratifs dans les établissements que par les élèves et les enseignants. Comme c'était un projet un peu transversal par rapport aux préconisations du ministère, j'ai été présenter ma solution au ministère en leur disant ben voilà, moi j'ai l'intention de faire ça, et ils ont trouvé l'idée intéressante. Et plusieurs académies m'ont sollicité pour installer le même genre de solution. Et là m'est apparue immédiatement la problématique qu'en fait, mettre du Linux, parce que j'avais développé ça sur une base Linux, Mandrake à l'époque, ça allait pas être simple dans les établissements scolaires. Donc il fallait essayer de trouver des mécanismes pour simplifier l'administration, l'installation et tout. Et c'est de là en fait qu'est né le projet EOL pour Ensemble Ouvert, Libre et Évolutif, qui a pour but qui initialement donc avait pour but de fournir des serveurs Linux prépackagés pour les établissements scolaires.
D'accord. Alors juste avant de poursuivre et de donner un petit peu les dates, on va préciser qu'un pare-feu, c'est un logiciel ou un ensemble de logiciels qui permettent de faire, on va dire, respecter des protocoles de sécurité sur un réseau ou sur une machine. Et deuxième petit point, alors c'est marrant parce qu'on me le fait remarquer sur le salon web de la radio, donc c'est de l'usage du nom GNU Linux. Nous, on préfère évidemment utiliser le terme GNU Linux, qui est beaucoup plus large et qui fait référence aussi à l'importance du projet GNU. Et je vais renvoyer le podcast de l'émission de la semaine dernière, donc du 28 avril 2020, où Véronique Bonnet, vice-présidente de l'April, avait fait une chronique sur le sujet. Donc voilà, et également une émission passée où on avait expliqué les différentes distributions logicielles libres, et celle que tu as citée, une des premières distributions logicielles libres françaises, donc dans les années 98-2000. Alors, ceci précisé, donc le pôle de compétences logicielles libres, donc c'est un pôle qui est donc une équipe du ministère de l'Éducation nationale. Il a été créé où, et il est situé donc spécifiquement à Dijon, ou il est décentralisé?
Alors en fait, donc si je reprends, effectivement, hein, c'est écrit EOL est une distribution GNU Linux sur notre site. Donc ma langue fourche des fois, faut pas m'en vouloir. Mais oui, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut faire attention à l'appellation GNU Linux. Donc en fait, ce projet qui était un projet académique, c'est pour ça que j'étais à Dijon, est devenu un projet interacadémique, puisque d'autres académies ont voulu se saisir de cette opportunité de pouvoir sécuriser les connexions Internet des établissements scolaires. Et au début, c'était un projet qui était mené en parallèle, je dirais, de mon autre boulot, quoi. Et avec la montée un peu en puissance de ce projet, en 2003, donc trois ans après, on va dire que le ministère de l'Éducation nationale a créé une équipe spécifique EOL, donc basée à Dijon, puisque moi j'étais à Dijon. Et au début, on était trois. Voilà, pour développer le projet. Et puis, petit à petit, au pare-feu sont venus se rajouter d'autres modules, hein, pour les établissements, d'autres serveurs. Et l'équipe a grandi petit à petit. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une équipe de 9 personnes basée à Dijon, et qui a une vocation, effectivement, on est pôle national de compétences, hein, on travaille au niveau national, et même, je dirais aujourd'hui, on travaille pour plusieurs ministères, et notamment, principalement, avec le ministère de l'écologie, avec qui nous avons un partenariat fort, puisque eux-mêmes ont une équipe EOL au sein de leur ministère, et qu'ils participent financièrement, je dirais, au développement du projet.
D'accord. Donc EOL, tu l'as dit, c'est une distribution, l'objet c'est de produire une distribution GNU Linux, alors plutôt, on va préciser, orientée serveur, c'est-à-dire c'est pas forcément c'est pas dédié au poste de travail des personnes au quotidien, c'est plutôt sur la partie serveur, donc pour gérer, comme tu l'as dit, peut-être un pare-feu, des serveurs de clients légers, etc. Donc c'est vraiment orienté serveur, et quelle fonctionnalité aujourd'hui cette distribution propose?
Alors effectivement, oui, c'est orienté serveur, parce que on a bien essayé deux, trois fois de proposer des solutions plus postes de travail, mais on n'était pas vraiment suivi sur ce sujet. Donc en fait, on a aujourd'hui comme solution postes de travail, on a quand même une solution qui s'appelle Éclair, qui est une solution qui fait du client léger, en fait, qui permet d'avoir sur des postes anciens de faire tourner des systèmes Linux, et c'est principalement utilisé dans les écoles, voilà, mais aussi dans certains collèges. Sinon, en plus du système du parent, qui a une vocation de protection à la fois des réseaux, du matériel et des gens, hein, puisque derrière, dans les écoles, il y a des mineurs, donc c'était important aussi, on offre des serveurs dits pédagogiques qui sont un serveur sur lequel principalement on va trouver des fonctions de contrôleur de domaine pour être en face des solutions propriétaires bien connues, qui peuvent donc les remplacer. Hein. C'est basé sur du Samba, hein, pour ceux qui connaissent. Avec en plus dessus la possibilité de faire tourner des applications web pour avoir des services à l'intérieur de l'établissement, mais que aussi au travers du pare-feu, on peut ouvrir sur Internet des services assez classiques, hein, des blogs, de la messagerie, voilà. Et donc ce module qui s'appelle Scribe est aujourd'hui largement déployé. On avait aussi réalisé alors quelque chose de très spécifique pour l'éducation, puisque c'était pour supporter des applications métiers. Donc c'est un module qui s'appelle Horus. Hein. On est souvent dans la mythologie égyptienne, qui est utilisé dans une grande partie des établissements scolaires, hein, puisque entre autres il y avait les applications métiers comme la comptabilité qui tournaient dessus. À l'époque c'était un challenge parce que tout était développé sur du Novell, hein, qui est une vieille solution réseau. Et à un moment donné, le ministère envisageait de virer Novell, et puis le client naturel c'était Microsoft. Et là, il a fallu relever un challenge qui a consisté à dire « mais nous, on peut faire mieux et plus vite que Microsoft ». Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le serveur Horus, et qui a été en gros le deuxième serveur important dans EOL. Donc. Et à ça, je rajouterais le plus d'EOL, en fait, parce que comme je l'ai dit, la problématique, c'était d'avoir beaucoup de serveurs dans une académie, dans une région, et d'administrer tous ces serveurs, c'était compliqué. Donc EOL propose en fait un système qui permet de téléadministrer les serveurs, de les configurer à distance, qui facilite l'installation, la migration, et ce module s'appelle Zephyr. Pour pas être trop technique, je renvoie les gens sur notre site, hein, vous mettrez les liens, tout ça est très, très bien expliqué. Et je dirais que voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, EOL est principalement dans les établissements scolaires, mais pas que. Hein. Donc, c'est vraiment du logiciel libre. Hein. C'est accessible à tous, téléchargeable en ligne. Et c'est utilisé dans d'autres ministères et dans d'autres instituts de formation privés. Voilà, il y a beaucoup d'utilisations. Et vous pourrez aussi voir les statistiques sur notre site. Aujourd'hui, on a 20 000 serveurs actifs, en fait, dans le monde entier, on peut dire, bien sûr, principalement en France et dans les territoires d'outre-mer. Voilà. Donc 20 000 serveurs qui tournent sous GNU Linux et EOL. Juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas dit et c'est important, c'est une méta-distribution, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien, on est appuyé aujourd'hui sur la distribution bien connue Ubuntu.
D'accord. Alors justement, sur la partie statistique, c'était une de mes questions. Donc tu dis 20 000 serveurs installés, mais pour qu'on ait une idée de ce que ça la représente, parce que ça paraît évidemment beaucoup, quel pourcentage ça représente par rapport aux serveurs qui sont installés donc dans l'éducation nationale? Est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça représente?
Ah non.
Non, bon, alors, sais rien, on cherchera alors.
En fait, nous, alors, la particularité aussi, on est un pôle logiciel libre du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on n'a pas de velléité commerciale. Hein, donc nous, notre idée, c'est vraiment d'offrir des solutions. Les gens les prennent, les utilisent comme ils veulent, sans forcément nous rendre compte. Ce qui fait que même les 20 000 que j'annonce, c'est un minimum, c'est-à-dire c'est les 20 000 qu'on connaît, dont 18 000 quasiment qu'on est capable de situer dans des établissements scolaires parce que les gens ont renseigné ce qu'il fallait pour qu'on puisse les positionner sur une carte. Mais potentiellement, il y en a plus. On ne sait pas, en fait. Et oui, on n'a pas de licence pour compter.
Voilà, c'est la difficulté, en tout cas, enfin, la difficulté, c'est une des caractéristiques du fait que ce soit du logiciel libre, c'est que n'importe qui, donc un prof dans une école peut installer le serveur pour ses besoins ou dans une académie sans en faire référence, enfin, sans vous le signaler. Et donc, effectivement, c'est un minimum ce chiffre-là. Avant de passer au sujet apps.education.fr, qui, je pense, intéresse aussi beaucoup de gens, donc EOL, c'est développé donc par le pôle compétences, le logiciel libre, mais est-ce que c'est développé uniquement par le pôle compétences ou est-ce qu'il y a des contributions externes, que ce soit des personnes physiques ou peut-être des entreprises?
Alors, il y a des contributeurs. Alors, il y a plusieurs types de contributeurs. Il y a les contributeurs collègues. Donc, dans les différentes académies, vous avez des informaticiens, hein, puisque on reviendra là-dessus probablement quand on parlera de HAPS. Une des particularités de ce ministère, c'est d'avoir des DSI dans chaque région. Donc, c'est un modèle qui est très décentralisé et donc il y a beaucoup d'informaticiens et dans ce cadre-là, on a pas mal de contributeurs, bien sûr, on a une véritable communauté de gens qui nous aident à des niveaux différents. Donc, classiquement, dans le logiciel libre, le premier niveau de contribution, ben, c'est déjà d'utiliser et puis de faire des retours. Donc ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, on a des gens qui nous soumettent des patchs et on a même des gens qui ont développé des modules. On a sur notre forge qui est ouverte, on a des produits qui sont portés en contribution, c'est-à-dire qui sont distribués par EOL, mais qui ont été réalisés par d'autres, oui. Et alors après, on a une catégorie un peu particulière qui est, on a travaillé avec des entreprises, dont Easter Egg d'ailleurs, puisqu'ils sont là, je les salue, qui ont même été une des premières boîtes avec qui on a bossé il y a très très longtemps, et puis plus récemment aussi. Donc déjà, on a des collaborations comme ça avec des boîtes qui font du logiciel libre. Et puis aussi des collectivités territoriales qui, des fois, ont des besoins spécifiques et les font développer. Alors, la plupart du temps, ils n'ont pas des moyens en interne. Donc, ils font appel à des sociétés aussi qui vont aller développer des choses qui vont être intégrées dans EOL, des améliorations, et qu'ensuite, nous redistribuons. Donc le principe que nous appliquons, c'est si nous sommes associés en amont avec ces développements, ils sont repris par nous dans la distribution et ensuite ils sont maintenus par nous. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a plusieurs collectivités qui ont rajouté des fonctionnalités à EOL qui aujourd'hui sont largement utilisées par les autres.
Bah, excellent, je vais peut-être juste préciser qu'une forge pour les personnes qui écoutent, c'est, on va dire qu'en fait c'est un site qui permet en fait d'héberger du développement, bah, notamment logiciel, et donc la forge du projet EOL est donc, comme tu l'as dit, une forge publique sur laquelle en fait toute personne peut contribuer, soit en apportant des corrections de bugs, soit en rajoutant des fonctionnalités, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est ça, et même simplement en nous faisant des suggestions, hein, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui viennent, qui nous disent « ouais, le produit, il lui manque ça », et du coup ça nous permet aussi, parce que c'est important, hein, depuis le début, EOL, on travaille vraiment dans la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire très proche de l'utilisateur, donc on est présent sur IRC, on a des forums, voilà, et l'idée c'est de coller au plus aux besoins des utilisateurs et du terrain. Et donc on est très à l'écoute là-dessus, parce que bon, pour nous la technique ça a toujours été un moyen, hein, c'est pas un but, hein, donc on perd pas de vue qu'on est là pour essayer de faire avancer les choses dans l'éducation en priorité, hein, et que bon, ben pour nous c'est important en tant que fonctionnaire, hein, de contribuer au bien public, quoi, argent public, bien public, tout va bien.
C'est un beau résumé. Je vais quand tu parlais des personnes qui utilisaient, je vais juste en préparant l'émission, donc sur la liste éducation de l'April, j'ai envoyé un message en disant qu'on te recevait si des gens avaient des questions, et il y a eu des remarques, et notamment une remarque d'une personne qui dit que s'il y a bien qu'un enseignant, hein, s'il y a bien un pôle qui connaît les logiciels libres et leur utilisation au sein des établissements scolaires, c'est bien EOL. Et il précise, il est déplorable que ce soit si peu connu de nos décideurs. Je pense qu'on reviendra à la fin sur la question de positionnement entre les informaticiens libristes du ministère et les décideurs, c'est-à-dire les politiques. Mais voilà, je tenais quand même à te faire remonter ce petit retour très positif autour d'EOL.
Oui, alors pour rebondir justement, parce qu'aujourd'hui, en parlant d'EOL, il y a plein de choses qui se racontent, comme quoi je profite d'être à l'antenne, hein, le projet serait en difficulté, qui va être arrêté. Ben non, c'est complètement faux. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que effectivement, avec la loi qui a confié, je dirais, la responsabilité des structures informatiques aux collectivités territoriales, un certain nombre d'académies se désengagent. Et que quand les académies se désengagent, des fois, c'est pas compris parce que les gens ont l'impression qu'EOL, c'est un produit académique. Donc, si les académies se désengagent, c'est fini EOL. Non. Aujourd'hui, on a des rapports avec beaucoup de collectivités territoriales. Et c'est vrai que c'est une nouvelle orientation du pôle où de plus en plus nos interlocuteurs, c'est pas forcément des gens qui travaillent dans l'éducation, c'est de plus en plus des gens qui sont dans les collectivités. Et aujourd'hui, on a des collectivités qui font le choix d'EOL et qui vont continuer à travailler avec les outils. Et au niveau du ministère, il est très très clair que cette mission-là, elle continue. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est pas de la responsabilité directe de l'éducation d'installer des services pour les établissements scolaires, hein, puisque c'est le boulot des collectivités. Il est quand même de notre rôle de continuer de proposer une solution. Hein. Donc en fait, le EOL est la solution libre proposée par le ministère aux collectivités pour installer dans les établissements scolaires.
Très bien, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, avec ces répartitions, nouvelles répartitions des rôles, c'est important de préciser donc que EOL est au service en fait de toutes les structures qui interviennent dans l'éducation. Donc, on renvoie évidemment sur le site april.org et sur causecommune.fm. Vous retrouverez les références vers le projet EOL, les différents modules et n'hésitez pas, la forge publique. N'hésitez pas à y faire un tour pour soit pour découvrir, pour utiliser, pour contribuer. Et on va aborder le deuxième sujet qui est le sujet principal en fait de la discussion que je disais en introduction, que le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme apps.education.fr. Alors je dis bien dévoilé parce qu'en fait on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui n'est pas si nouveau que ça finalement. Mais en tout cas, tout d'un coup, il y a eu des commentaires disant enfin le ministère de l'Éducation nationale s'intéresse aux logiciels libres. Alors on va d'ailleurs revenir sur cette partie de logiciel libre, parce que j'ai quelques questions par rapport justement au positionnement. Alors, mais déjà, première question sur l'historique donc de cette plateforme, de ce projet, donc apps.education.fr, de quand date le projet, par qui est-il mené et quels sont les objectifs de ce projet?
Alors, le projet était, c'est pas effectivement un projet qui est sorti du chapeau là au dernier moment. C'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui travaillent depuis un moment. Je dirais que ça fait presque 2 ans en fait que il y a eu une phase pendant presque un an de maturation du projet qui est donc mené par la DNE, la Direction du numérique éducatif, avec comme sponsor Laurent Le Prieur, hein, qui est à la tête de la sous-direction. Et en fait, ce projet, au départ, il a été surtout conduit, je dirais, avec les différentes DSI académiques, pour essayer de déterminer un petit peu les contours fonctionnels, une organisation plus, je dirais, administrative, voilà. Donc, il y a eu des réunions, essentiellement avec entre les DSI. À l'époque, il y avait le. Donc c'est, je peux la nommer, c'est Marine Gou, qui est chef de projet au niveau de la DNE, avec Marine. Et à l'époque aussi, il y avait un Jérôme qui est parti depuis. Ce projet, aujourd'hui, je dirais, il est rentré dans une partie plus opérationnelle il y a 1 an, hein, en fait. Hein, où là vraiment il y a une équipe qui a été constituée. Donc aujourd'hui il y a Nicolas, Marine, moi, plus 2 designers dits d'intérêt général, hein, qui sont mis à disposition par la DNUM du projet. Et ce projet avait pour vocation de fournir des outils numériques principalement libres. Il n'y avait pas d'exclusif, hein. C'était principalement libre, comme on s'était dit, au personnel de l'éducation nationale, personnel administratif et enseignant. Et pas du tout d'aller s'occuper de la relation des enseignants avec les élèves, puisque en gros, fallait pas marcher sur les plates-bandes des ENT, quoi. Voilà. Donc ce projet concrètement a démarré en fin de l'année dernière, principalement suite à des hackathons qui ont été organisés. Alors au Lab 110, pour ceux qui connaissent, c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale où il y a eu des réunions avec des utilisateurs pour essayer de déterminer les contours. Parce qu'il y a une démarche de design par les utilisateurs. Et puis, le coût vraiment opérationnel, ça a été lors d'un hackathon des administrations organisé par la DINUM, où les premières lignes de code ont été produites lors de ce hackathon. C'était en novembre, je crois, 99. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse, sachant que, bien sûr, on n'avait pas prévu de faire apps bêta là pour le confinement. Non, ben du coup, donc je peux un petit peu expliquer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, ce projet avait pour vocation de s'adresser au personnel de l'éducation. Et quand le confinement s'est produit, bon, au début, tout allait bien entre guillemets. Les ENT allaient prendre le relais. Il y avait des tas d'accords qui avaient été signés avec des GAFAM, avec des choses, et tout allait bien. Et puis finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça marchait pas si bien que ça. Il y avait quand même des problèmes. Donc la DNE s'est tournée vers nous pour voir si on pouvait pas essayer de colmater quelques brèches. Alors, sachant que moi, je suis aussi très impliqué dans les travaux interministériels autour du logiciel libre, et que dans ce cadre-là, j'ai monté une plateforme pour les groupes qui travaillent sur le logiciel libre, une plateforme qui s'appelle MIM Libre, qui est une plateforme interministérielle, qui déjà est un portail qui regroupe des services pour les gens qui travaillent autour du socle interministériel logiciel libre. Donc il y avait des pads, il y avait un forum, il y a de la messagerie, du rocket chat, voilà, il y avait tout ça. Donc ces services-là qui ont servi un petit peu de modèle pour construire apps, en fait. Et du coup, quand il y a eu ces problèmes, ce qu'il a fallu faire pour nous, c'était réorienter un petit peu le apps. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du développement, il y a une branche particulière qui a été créée pour finaliser certaines fonctionnalités et les stabiliser en priorité pour pouvoir sortir une version donc bêta, et aussi une réflexion qui a été menée pour trouver des services et un petit peu colmater les brèches, comme je le disais. Donc pour ce faire, il y a eu un appel qui a été lancé aussi sur nos réseaux internes, je dirais, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une grande participation de plusieurs DSI académiques, hein, qui sont venus nous donner la main. Sinon, ça n'aurait pas été possible de faire ça aussi vite.
Mais en introduction, tu as donné un point qui est intéressant. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité logiciel libre et tu as cité Laurent Leprieur. Alors, il se trouve que ça, c'est marrant parce que j'ai vu un courriel de Laurent Leprieur qui a été envoyé à la communauté des informaticiens en DSI, donc Direction des systèmes informatiques, auprès des ministères pour annoncer apps.education.fr un appel à contribution. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce courriel, il est question de services, d'applications, mais le mot logiciel libre n'apparaît jamais. Quand on regarde sur apps.education.fr, ce qui est marrant aussi, c'est que le mot logiciel libre n'apparaît pas. On voit services, sécurisés, utiles, etc. Et quand on va sur les différents outils, comme par exemple PeerTube, qui permet de partager des vidéos, quand on va sur Nextcloud, qui permet de partager des documents, pareil, cette notion logiciel libre n'apparaît pas. Alors, j'aurais une question un peu provocatrice. Est-ce que le ministère a honte de se baser sur des logiciels libres, ou est-ce qu'il y a des pressions internes pour pas peut-être faire trop de pub au fait que ce soit des logiciels libres?
Non, je dirais que le ministère a pas honte du logiciel libre. D'ailleurs, je veux dire, il faut le savoir que dans les infrastructures du ministère et des académies, c'est 99% de Linux, donc de GNU Linux. Donc voilà, il y a pas de honte, et les informaticiens de l'éducation nationale sont sur les parties serveurs, sont habitués à travailler avec beaucoup de logiciels libres. Hein. Par contre, alors moi je suis pas du tout chargé de la com, hein, sur le projet, donc j'ai pas du tout participé à l'aspect rédactionnel de présentation. Ce que je pense, c'est qu'effectivement il n'y a pas non plus la volonté de mettre en avant le fait que ça soit du logiciel libre. Il n'y a ni la volonté de le cacher ni la volonté de le mettre en avant. Peut-être pour éviter justement des polémiques. Donc c'est pas caché, puisque les logiciels sont nommés, cités Donc on sait très bien que derrière les pads collaboratifs, c'est un produit qui s'appelle CodeIMD, que voilà, quand on va sur les logiciels eux-mêmes, on va trouver des fois des références justement comme quoi c'est des logiciels libres. Après, pourquoi ça n'a pas été mis en avant, là il faudrait demander effectivement au service de com de la DNE. Mais il n'y a pas non plus de honte, hein. Faut pas non plus, voilà.
Non, mais je sais que toi tu n'en as pas honte, mais peut-être que la DNE, donc la direction nationale la direction du numérique éducatif, peut-être que le ministère en a honte. Mais je fais un appel effectivement au service presse. Si le ministre veut s'exprimer ou un responsable de la DNE veut s'exprimer, ça sera avec plaisir. Alors, on va parler des différents services qui sont proposés, mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Cette pause musicale va faire plaisir à notre invité suivant, Pierre-Yves Guillard, car c'est un membre d'Easter Eggs qui, au-delà d'être informaticien libriste, fait également de la musique. On va écouter Lost par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Lost par Emmanuel Saraco, musique disponible sous licence libre licence art libre, excusez-moi. Vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et également en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc nous poursuivons notre discussion sur l'éducation nationale et les logiciels libres avec Luc Bourdeau, qui est donc le responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres, le pôle EOL. Et on parlait juste avant de la pause musicale de la plateforme apps.education.fr qui propose un ensemble de services donc au personnel de l'éducation nationale en cette période de confinement. Alors, Luc, est-ce que tu pourrais nous lister les services qui sont pour l'instant proposés sur cette plateforme apps.education.fr?
Oui, donc en fait, la première chose, c'est que cette plateforme reste personnalisable. Donc, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette plateforme, elle a été... en fait, c'est pas une plateforme, c'est une plateforme par académie. Donc, 27. Enfin, 28 avec le ministère, puisqu'on a fait une plateforme aussi pour les personnels du ministère. Donc, au départ, l'idée, c'était de proposer quelque chose pour aller très vite, avec des services intégrés, mais chaque académie aujourd'hui a la possibilité de rajouter d'autres services ou de les échanger avec ceux qu'on propose. Hein, c'est pour ça que des fois, on va avoir des réactions par rapport à cette plateforme qui peuvent être sembler incohérentes. C'est parce qu'en fait, c'est pas une plateforme, c'est 28 plateformes, hein, avec la personnalisation que peuvent faire les académies. Donc, les services qui ont été intégrés de base, il y en a, je sais même plus combien, mais je vais essayer de les reciter sans me tromper. Il y a la première, c'est déjà le portail lui-même, hein, qui est donc le développement. Qui doit permettre d'avoir une entrée principale et surtout ce qui était ressorti dans les interviews qu'on faisait avec les utilisateurs, c'était la difficulté des gens de retrouver tous les outils. Donc l'idée, c'était déjà en premier lieu de faire une application qui va servir de portail pour tous ces outils, une plateforme de service où chacun va retrouver les différents outils et en plus ces outils étant en authentification unifiée, c'est-à-dire que une fois qu'on se connecte sur la plateforme, le passage vers les différents services proposés, à quelques exceptions près, se fait sans avoir besoin de se réauthentifier. Authentifié. On est authentifié une bonne fois pour toutes. Ça, c'est aussi une facilité. Donc il y a le pad, ce qui est classiquement, pour ceux qui connaissent, il y en a deux en fait. Il y a Etherpad, qui est une application extrêmement connue. Donc le pad, c'est un outil qui va permettre d'écrire de manière collaborative en ligne, donc à plusieurs. On peut se mettre sur un texte, on peut travailler en même temps sur ce texte. On a intégré un outil peut-être un peu moins connu, mais qui, à mon avis, est plus performant et plus intéressant, qui offre plus de possibilités. C'est s'appelle CodeIMD, donc lui aussi c'est un pad, mais qui offre des personnalités de présentation peut-être un petit peu plus évoluées. Voilà. Donc deux services d'écriture collaborative, et ensuite qui permettent de republier éventuellement. Vers des gens qui, eux, ne seraient pas connectés. Hein. Donc, on peut créer du contenu à plusieurs et le mettre à disposition d'autres personnes simplement en diffusant le lien, l'URL du contenu qu'on a créé. Un service de blog. Alors, un service de blog qu'on a intégré dans notre plateforme parce qu'on voulait quelque chose de très, très simple. Donc, ça veut dire que quand vous êtes connecté dans la plateforme, vous avez un espace publication qui va vous permettre, là aussi, de créer du contenu. Alors, c'est pas coopératif, collaboratif, donc là vous créez votre contenu tout seul, et ensuite la totalité de ce contenu est exposée sur une simple page avec, je veux dire, l'entrée principale était le nom de la personne en fait, hein. Du coup c'est très très simple, donc si votre maîtresse d'école s'appelle Madame Pervenche, bah, vous cherchez Madame Pervenche et vous allez trouver immédiatement tout ce qu'elle a publié pour vous, voilà. Donc on voulait quelque chose de simple. Il y a un service, alors pareil, logiciel libre, hein, Nextcloud, donc qui est un service, je ne sais pas comment le qualifier, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Nextcloud, mais principalement de partage de documents, je dirais, hein, même si à l'intérieur, il y a plein de fonctionnalités plus riches. Mais son principale fonction, c'est ça, c'est de pouvoir partager des fichiers, des documents.
Nextcloud, c'est une plateforme collaborative qui, effectivement, au départ, a surtout été connue pour le site d'hébergement de fichiers, mais qui propose beaucoup de choses. Hein. Tu peux synchroniser des contacts, tu peux mettre des images. Enfin, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Il y a même un outil de visioconférence qu'on a, par exemple, d'ailleurs, utilisé dans le cadre de l'émission. Donc, il y a plein de fonctionnalités. D'ailleurs, je répète une question sur Nextcloud d'après, mais je te laisse finir la liste des services proposés.
Oui, donc effectivement, Nextcloud permet de faire pas mal de choses, mais nous, on n'a pas forcément activé aujourd'hui toutes les fonctionnalités à l'intérieur du Nextcloud. On l'a vraiment vu comme plutôt pour stocker et partager des fichiers, d'accord ? Enfin, des fichiers, que ça peut être du texte, des images et du son, voilà. Donc, en parlant après de médias, il y a le Peertube, donc je pense bien connu des libristes, qui est un produit qui a été développé par l'association Framasoft et qui est Peertube, on va dire, allez, le concurrent de YouTube, n'est-ce pas ? Donc le but, c'était de permettre aux enseignants d'avoir un espace où ils peuvent publier leur contenu vidéo, hein, qu'ils réalisent, et ensuite de le partager. Alors, je le dis tout de suite, on est en rapport avec l'association Framasoft, ça va déjà permettre de dire que le ministère contribue au développement de Peertube, puisqu'on a fait réaliser, c'était aujourd'hui Peertube ne permettait pas justement de faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentification unifiée, puisque les protocoles d'authentification, c'est un petit peu technique, mais les protocoles dans Peertube ne permettaient pas, et donc le ministère a financé ces fonctionnalités supplémentaires, donc qui vont être bien sûr remises à disposition de tous.
Donc, c'est une excellente nouvelle, ça.
Voilà. Cette plateforme donc va servir à publier des vidéos. Voilà.
Et il y a aussi un forum, si je me souviens bien. Peut-être on a déjà parlé. Excuse-moi.
Non, j'en ai pas parlé. Donc effectivement, il y a un forum aussi. Alors bon, on voit par exemple qu'entre le forum, les pads, les blogs, il peut y avoir l'impression d'un peu de redite. Mais pour nous. C'est des approches un peu différentes et on voulait voir comment les utilisateurs allaient s'en emparer, qu'est-ce qui leur semblerait le plus judicieux. Hein. Le but, c'était pas non plus d'être trop contraignant vis-à-vis des utilisateurs. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'un enseignant communique avec sa classe ou avec les parents, en gros, il peut passer par les pads, il peut passer par les blogs et il peut passer par les forums. Après, c'est son choix, hein. Il fait comme il veut. Et on verra, nous, à l'usage, si certains services sont pas du tout utilisés, on ajustera. Ça a été dit dans le communiqué un petit peu. Il faut bien comprendre que le projet Beta Apps, là, bien sûr, il sert à répondre au confinement, mais on aurait pu le faire autrement. On a décidé d'utiliser quand même les mécanismes Apps parce que ça nous semblait cohérent d'obtenir des retours d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a nos deux designeuses d'intérêt général qui sont à la recherche et qui mènent des entretiens avec des utilisateurs dans toutes les académies, en fait. Hein. Il y a eu un appel à volontariat sur les plateformes type T-Shape, par exemple. Et ça nous sert aussi de galop d'essai, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on est en train de regarder comment les utilisateurs s'emparent de ces outils, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils trouvent pas bien, et toutes les suggestions qu'ils pourront nous faire, voilà.
C'est une excellente démarche qui rappelle sans doute un peu la démarche agile que vous pratiquez, je crois, à EOL et dont on a parlé dans une émission récente de Libre à vous. Alors, le temps, il file très très vite et il nous reste quelques minutes. Oui. Ça me fait penser à ton dernier commentaire sur le fait que sur le site de Apps, on voit marqué que les services proposés sur la plateforme sont temporaires afin de répondre aux demandes dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, donc et le confinement. Donc, se pose évidemment la question de la pérennité de ces applications. Est-ce qu'elles vont être pérennes, relancées ultérieurement pour être définitivement en ligne indépendamment de la période de confinement, et aussi de la question du transfert de la sauvegarde des documents qui pourraient être déposés d'ici la fin de l'année scolaire sur cette plateforme. Donc, la question de la pérennité.
Alors, c'est une excellente question. je te remercie de me l'avoir posée, comme on dit. Donc, en fait, il y a eu, à mon avis, une petite erreur de communication de notre part en disant que on a mis dans le bandeau, attention, c'est temporaire, même si juste en dessous, on dit que les services ont vocation à être pérennisés. Mais les gens, souvent, se sont arrêtés au premier truc en disant, mais alors, tout va s'arrêter. Non, tout va pas s'arrêter. Ce qu'il faut comprendre, c'est la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que aujourd'hui, le projet Apps, et de bientôt, vous aurez accès à je dirais, le Apps final en mode bêta avec d'autres fonctionnalités pour tester, était hébergé dans des infras qui propre à l'éducation nationale, qui n'était pas dimensionné du tout pour accueillir potentiellement la totalité des académies et des enseignants qui en auraient besoin. Donc c'est pour ça que la DNE s'est tournée vers des partenaires extérieurs, en l'occurrence je peux les citer, hein, Scaleway et OVH, pour héberger ces services, puisque nous on n'avait pas ces compétences, enfin ces capacités rapidement en interne, puisque notre plateforme aujourd'hui elle n'est pas dimensionnée pour ça. Donc du coup, s'est posé la question on n'avait pas eu le temps vraiment de faire un certain nombre de tests. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur des plateformes par académie plutôt qu'une plateforme nationale. C'était une façon pour nous de savoir que la montée en charge serait quand même moins violente qu'en voulant présenter directement une plateforme nationale. On n'était pas, on n'avait pas eu le temps de faire tous les tests, donc on n'a pas voulu prendre ce risque. Donc on est parti sur une plateforme, je dirais, par académie. À partir de là, donc, ce qui est clair, c'est que le projet APS, lui, il a vocation à continuer après le confinement. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait un certain nombre d'adaptations pour ce confinement. Donc, en premier lieu, le côté relation enseignant-élève n'est pas du tout dans les objectifs de la plateforme APS définitive. La plateforme APS définitive, les enseignants pourront bien sûr l'utiliser pour travailler entre eux, favoriser le travail collaboratif entre eux, mais pour l'instant, il n'est pas dans la cible que ce soit une plateforme qui serve directement, en tout cas, à la relation avec les élèves. Elle pourrait être utilisée pour commencer à préparer des contenus qu'on partagerait ensuite avec d'autres outils, mais il n'est pas prévu que les élèves se connectent directement sur les plateformes APS. Voilà. Donc du coup, effectivement, la pérennité des données, aujourd'hui, on ne sait pas la garantir. Déjà parce que, en termes d'infrastructure, on va changer. On va passer d'un hébergement externalisé à quelque chose de réinternalisé probablement. Que aujourd'hui, on a 28 plateformes qu'il va falloir ramener dans une seule et que les informaticiens savent bien les problèmes que ça pose en termes d'unicité, des identifiants et tout ça. Donc, c'est pas une opération qu'on peut garantir. Par contre, on ferait de notre mieux pour que ça soit, je dirais, possible au maximum. C'est-à-dire que c'est classique, hein, c'est une version bêta, c'est-à-dire une version bêta, en gros, on est en best effort, on fait au mieux, mais il y a des choses qu'on peut pas garantir. Donc on préférait prévenir les gens en leur disant ce que vous allez mettre dans le Nest Cloud, de toute façon, il y a des mécanismes de synchronisation, il vaut mieux que vous gardiez une copie synchronisée chez vous, et de toute façon, ça reste un conseil valable tout le temps, de garder des copies chez vous. Mais on fera au maximum, mais aujourd'hui, on sait pas exactement ce qu'on sera capable de faire. Donc, probablement, par exemple, que les vidéos qui seraient sur des Peertube, vu que Peertube a déjà un mode fédéré, on devrait arriver à récupérer, mais c'est pas évident. Et puis aussi, ça va dépendre, je dirais, de l'utilisation qui va en être faite. Hein. S'il y a des gigas, des terras et des terras et des terras de données, ça peut aussi être compliqué à traiter. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens devront probablement récupérer des choses chez eux et les redéployer après. En tout cas, on mettra en place des mécanismes pour être capable, par exemple, dans les blogs, dans les pads, que les gens puissent réimporter toutes leurs données pour faciliter une republication ultérieure dans d'autres outils si on n'était pas capable de le faire automatiquement. Voilà.
D'accord. Avant dernière question, je pense, est-ce qu'il est prévu une formation pour le personnel enseignant qui a l'habitude sans doute d'utiliser d'autres outils ou en tout cas qui va découvrir de nouveaux outils, est-ce qu'il y a la formation qui est prévue?
Alors oui, c'est déjà en place. Alors c'est en place, on va dire, non, je vais être plus précis, ça se met en place. Donc on a fait appel à la communauté et il y a beaucoup de tutos qui ont été réalisés. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui tous les tutoriels qui ont été réalisés essentiellement par des profs d'ailleurs sont dispersés sur les différentes plateformes. Et là, il y a un travail qui est fait en ce moment pour essayer de tout regrouper et d'avoir à un moment donné un affichage cohérent de tous les tutoriels qui sont réalisés. Donc déjà, par exemple, sur le Peertube, c'est fédéré. Il y a moyen de voir qu'il y a quand même déjà pas mal de vidéos qui ont été faites pour aider. Et donc l'assistance, en fait, elle sera absolument pas réalisée par l'équipe. L'équipe APS, c'est une équipe qui va éditer le logiciel, mais le soutien, je dirais, sera fait par les académies elles-mêmes. Donc là, les académies s'organisent pour voir comment elles vont pouvoir. Alors les académies, les DSI et bien sûr les DAN. Hein, les DAN, c'est les délégués académiques au numérique éducatif. Donc s'organisent pour soutenir les enseignants dans l'utilisation de la plateforme.
D'accord. Dernière question, si en moins de 2 minutes, tu devais un petit peu résumer APS ou donner envie, ou les éléments clés peut-être à résumer en moins de 2 minutes.
Ouais, chouette exercice.
Je sais.
Non, APS, en fait, là, je vais essayer de ne pas trahir de secret, mais quand même, la volonté de l'équipe, c'est vraiment aussi au-delà de ce qu'on va proposer, c'est aussi d'emmener dans ce ministère une démarche un petit peu différente. et qui est pas caché non plus, hein, qui est soutenu, hein, le sponsor de la DNE, il est au courant. Et cette démarche consiste effectivement à faire du design avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a eu des hackathons. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs, pas attendre des aides d'avoir le produit parfait. Donc les critiques, elles sont recevables. On sait bien qu'il y a plein de choses qui sont pas complètement secs, comme on dit chez nous, hein, mais on l'écoute. Donc d'avoir une démarche vraiment proactive avec nos utilisateurs, d'aller très très vite dans la livraison des produits, justement pour les améliorer avec eux, et puis bien sûr de pousser au maximum les produits libres. Et donc, juste peut-être pour préciser et revenir sur la notion de produit libre, ce qui est réalisé par l'Éducation nationale, donc en l'occurrence le portail, c'est disponible sur notre guide, sur le GitLab en fait. Donc dans les annonces, souvent vous trouverez le lien. Donc c'est ouvert à contribution. Les recettes pour déployer le discours, ça a été fait avec du Salt, c'est disponible aussi sur notre GitLab. Et la plupart des services, donc là je suis un peu technique, mais c'est hébergé avec des conteneurs Docker, et donc toutes les formules Docker Compose sont aussi disponibles. Ce qui veut dire qu'en gros, si quelqu'un a envie de monter un chaton à partir de ces produits-là, bah il a qu'à aller chez nous télécharger, et puis voilà, c'est faisable.
Bah écoute, Luc, je te remercie. Tu viens de parler des chatons. Je rappelle que les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont on a déjà parlé dans l'émission, et le site c'est chaton avec un s.org. Ce que tu expliquais à la fin renvoie à la thématique de le modèle de développement de l'agilité dont on a parlé récemment, je crois que c'est le 24 mars avec Alexis Monville. Et en tout cas, je voulais te remercier de ton intervention et aussi rappeler que bon. On critique très souvent les différents gouvernements qui se succèdent par rapport à leurs accords cadres Microsoft et autres GAFAM, c'est-à-dire les géants du web. Il faut aussi rappeler que l'État n'est pas monolithique. Il y a des gens comme toi qui travaillent en interne pour faire avancer l'usage et le développement des logiciels libres, mettre en place des services basés sur du libre et donc apporter des libertés. Donc vraiment bravo aux personnes qui font ça en interne. Et Luc, je te remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu de Apps quand vous aurez justement un retour d'ici quelques semaines, quelques mois. Et j'espère qu'on pourra en parler d'ailleurs avec d'autres personnes de l'équipe en plus de toi. Ça me ferait très plaisir, notamment par exemple tu as cité Marine Gou, ça me ferait très plaisir d'avoir Marine Gou et toi dans l'émission.
Alors en plus ça serait vraiment bien si ça pouvait être en présentiel.
Eh ben, on espère que ça sera en présentiel, on attendra que ça soit possible en présentiel, donc ce sera pas tout de suite en tout cas, mais en tout cas c'était un plaisir. Donc c'était donc Luc Bourdeau, donc qui est responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres du ministère de l'Éducation nationale, donc le pôle EOL, et au sein de l'équipe de la plateforme donc apps.education.fr, Luc est chargé du pilotage, des développements et de l'intégration des composants libres. Luc, je te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Alors on va faire une petite pause musicale. Même une assez longue pause musicale parce que c'est un morceau assez long, mais c'est je pense que ça va bien vous plaire. Donc on va écouter Blacklisted par The Bundy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Prime time, when more I buy them, less I'm satisfied. But how many times that it's take my soul, left right compromise. Priority to highest, less propriety. See, the wizard of business supremacy. Being the bomb sound, directly dragged down. Raised in the therapy for having it cracked down. I'm merely a spectacle, like a kind of miracle. How the way you should be. Enough and fuck on them all. Haunts with
finally what we try to keep up. A weight bus day, step inside of the state. What? Mind check, with a conscience to rest. Can't the crowds, the contradicts of society mess. The daughters and sons are forced to digest. Disaster of so-called irregular conductor. God bled the benefits of such a holy prosecutor. Listen to the little, to the worst for the better. Who say shut up, be the best product of a global failure in the market major. They say shut up, be the best product of a global failure in the white man nature. I'm a media spectacle, like a kind of miracle. How the way you shoot me, they would ask to unveil. I stopped at 69 tall,
in the Trump tall.
Love could be a salvation storm.
Truth to see values bound to get the wall. So let's start it up and punk on them all.
Unreachable peace, fortunate soul, are you feeling like home? Wretched the freedom, banished wisdom. There's a poor way of fear, nobody who cares. Trump or pressure, rest to watch you. I'm ready, a spectacle, like a kind of miracle. How the way you shoot me, they would ask to unfear. I
stopped
at 69 tall,
in the Trump door.
Love could be a salvation storm.
Je laissais le final, hein. Non, pas coupé le final. Donc c'était Blacklisted par The Bundy, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Et le site du groupe, c'est thebundy.fr. Bundy, c'est B-U-N-D-Y. Mais vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm, car vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et partout dans le monde sur le site causecommune.fm, excusez-moi. Nous allons passer au sujet suivant, qui était initialement le premier sujet. Donc nous allons prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciels libres Easter Eggs avec Pierre-Yves Dillard. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Frédéric, vous m'entendez bien cette fois-ci ?
Alors, on t'entend bien ce coup-ci. Donc, l'idée un petit peu de ces pastilles, c'est de prendre un petit peu des nouvelles d'Easter Eggs. Alors, on va préciser que Easter Eggs, on connaît bien parce que l'April occupe une partie des locaux d'Easter Eggs. On sous-loue un bureau et puis on partage, on a le plaisir de partager les déjeuners. Premier thème, question. Easter Eggs, bon, un historique de télétravail sur pas mal de quelques salariés d'Easter Eggs. Easter Eggs, à peu près, et pour ce télétravail, mais était-ce bien le cas? Et est-ce que vos clients étaient de leur côté prêts pour le télétravail?
En fait, on a découvert qu'effectivement, le télétravail pour nous, c'était quelque chose d'assez naturel parce que on a une histoire du télétravail. À chaque fois, il s'est un peu imposé à nous parce qu'au début, on n'est pas forcément pour. On pensait qu'une entreprise, c'était aussi un lieu social où on devait se rencontrer, où on pouvait partager des choses. Et puis, il y a un moment où il y a eu des départs, des gens qui ont dû suivre, par exemple, leur compagne. L'exemple, c'est Cyril, chez nous, un développeur, chef de projet, qui a dû partir à La Réunion. Donc évidemment le télétravail s'imposait, puis on s'est aperçu que ça marchait super bien. Du coup on s'est dit bon bah le télétravail c'est bon pour les développeurs, mais pour les admin 6 on a besoin d'être entre nous, on a besoin d'être pas loin des serveurs, et puis pour les commerciaux, les chefs de projet, c'est important d'être en présentiel aussi. Et puis il y a un admin 6 un jour qui a dit bah moi je vais partir en Bourgogne, c'est Arnaud. Et puis là, on s'est dit ah bon, bah écoute, on essaye. Et puis bah ça se passe très bien. Et puis donc petit à petit, il y a d'autres admin 6 qui sont partis à Montpellier, et puis d'autres encore qui ont des projets. Donc on s'est aperçu que bah finalement le télétravail ça marchait bien aussi pour les admin 6. Puis on s'est dit oui, mais pour les commerciaux, pour les voilà, c'est important d'être là, de se parler, ainsi de suite. Et puis finalement avec le Covid et le confinement, moi je me suis retrouvé de fait moi je suis chef de projet dans l'entreprise, je me suis retrouvé de fait en télétravail, et je me suis aperçu très vite que ça se passait très bien, que ça marchait très bien, et qu'on avait vraiment tous les outils qui étaient immédiatement disponibles dès les premiers jours, dès les premières heures du confinement. On avait tout à notre disposition pour être finalement j'ai envie de dire comme à la maison, si on entend Historix comme une maison, mais on était à la maison comme à la maison. Et la première conclusion, c'était de se dire, ok, bah nous, finalement, on est prêt à continuer comme si de rien. Et d'ailleurs, les clients s'en inquiétaient, nous demandaient, comment vous allez assurer la continuité de service, et ainsi de suite. On dit, pour nous, ça ne change absolument rien. Les équipes restent mobilisées comme en temps normal. Mais en revanche, les clients, eux, ont disparu pendant au moins une bonne semaine, car chacun s'est retrouvé chez soi. Ils n'avaient pas forcément les outils pour s'organiser, pour se réunir. Et donc, on a eu une bonne semaine, pour pas dire deux, où finalement, il y a eu un peu un silence radio et là, petit à petit, après, on a senti qu'il y a eu une organisation. Alors, on les a assistés. Il y a certains clients qui sont venus vers nous avec des projets de plateforme, justement, de téléconférence, des projets de VPN, des choses comme ça, qui leur permettaient de travailler, de s'organiser à distance.
D'accord. C'est que toi, vu ce que tu expliquais, en fait, c'est que, au vu de ton poste, tu pensais, en fait, que le télétravail ne pouvait pas fonctionner, qu'en fait, un télétravail, c'était finalement... pour la partie, on va dire, technique. Donc, est-ce que cela suppose, par exemple, que tu envisages, toi, de faire du télétravail continu, c'est-à-dire de rester, de t'auto-confiner volontairement dans l'avenir ?
Alors, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on va, à mon avis, comme beaucoup, 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 à mon avis, dans l'entreprise, beaucoup de salariés, on va peut-être inverser la relation entre télétravail et présence au bureau. Et je pense qu'on va aller vers une présence limitée au bureau à des moments qui seront un peu décidés, organisés, ou peut-être avec des rotations, ou pour qu'il y ait toujours au moins quelqu'un, ou en tout cas qu'on puisse se rencontrer quand il y a besoin. Et puis la normalité, ça sera plutôt le télétravail. Moi, je crois beaucoup à cette nouvelle forme d'organisation, d'autant plus que ça va donner des idées. Le télétravail et le fait de se décomplexer par rapport à cette pratique-là et la rendre, on va dire, que ça soit la normalité, va permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'éloigner plus facilement de son lieu de travail, avec et justement de pouvoir profiter d'un appartement plus grand ou d'une maison avec jardin peut-être.
C'était d'accord. Plutôt... Voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a des manques ? Quels sont les manques que tu as actuellement par rapport, ou que les autres personnes de l'équipe Easter Eggs ont par rapport donc à ce confinement et ce télétravail ?
Alors, C'est vrai que chez Storex, on avait des traditions de déjeuner, de se regrouper à l'heure du déjeuner notamment pour échanger et peut-être un petit peu se détendre. C'était un peu une tradition. On avait des grandes tablées à laquelle justement vous participez très souvent à l'April. Donc c'est des moments très conviviaux auxquels on est tous attachés. Alors ça, pour l'instant, ils ont disparu. Alors dans un premier temps, c'est pas forcément un manque parce qu'on subit tous la nouveauté d'un télétravail forcé, mais je pense que ça fait partie des points essentiels parce que une vision conférence ne remplacera jamais la convivialité d'un repas partagé pour que des relations de travail deviennent aillent plus loin. Et aujourd'hui, on se considère tous plus ou moins comme des camarades chez Storex plus que comme des collègues. Et c'est ces moments-là, partage, qui créent cette relation.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, comme tu le dis, on partageait les tablés. Et de notre côté, effectivement, je pense que je peux parler au nom de mes collègues aussi. C'est ce manque de lien social et de midi où tu nous racontes un peu de nombreuses histoires et puis aussi les endroits du quartier. Donc, on va saluer notamment, je sais pas, Pizza Dido, chez Joy, la table de la ressourcerie créative, la petite Alsacienne aussi, qui est une boulangerie, voilà, qui nous manque beaucoup, quoi.
Et voilà. Exactement.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Easter Eggs? Alors, je vais rappeler le site web d'Easter Eggs, hein, c'est easter-eggs.com. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur ce sujet-là ou sur un autre, hein?
Bah écoutez, non, j'espère juste qu'on va bientôt pouvoir se recroiser rue de l'Ouest, pas tous ensemble en tout cas, mais par partie dans un premier temps, qu'on puisse renouer ce lien le plus vite possible.
Bah écoute, c'est un sentiment partagé, ça sera évidemment pas pour tout de suite, ça on le sait, mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de t'entendre, Pierre-Yves. Donc c'était Pierre-Yves Dillard qui est chef de projet donc chez Easter Eggs, une société spécialisée en logiciels libres, et j'ai oublié de préciser d'ailleurs qu'on a eu déjà le plaisir d'avoir plusieurs fois Easter Eggs, donc dans l'émission du 21 mai 2019 sur les modèles d'organisation d'entreprises du libre, et l'émission du 23 avril 2019 sur les entreprises du logiciel libre. Donc vous retrouverez les podcasts, hein, sur causecommune.fm et sur april.org. Bah écoute Pierre-Yves, je te souhaite quand même de passer une belle fin de journée.
Et bah également, et à très bientôt.
À bientôt Pierre-Yves. Alors, vous êtes toujours donc sur la radio Cause Commune, hein, la voix des possibles, hein, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors nous n'allons pas faire de pause musicale, nous allons passer au dernier sujet. Avec la chronique donc de ma collègue justement Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Et aujourd'hui, Isabella reçoit Marc Épiègne de l'association libriste de l'Oise qui s'appelle Oisux, oisux.org. Donc je leur laisse la parole, c'est à vous Isa et Marc.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marc Épiègne de l'association Oisux. Et Oisux est un GUL, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter d'autres GUL au cours de précédentes émissions de Libre à vous. Et dans le cas de Oisux, le périmètre d'action, on va dire, est notamment le département de l'Oise, mais peut-être que vous l'avez déjà deviné grâce au nom. Donc, bonjour Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être avec nous. Donc pour commencer, je te propose de te présenter et de nous préciser un petit peu ton rôle dans l'association Oisux. À toi de parler.
Ok. Eh bien donc Marc Épiègne, comme ça a été dit, donc je fais partie du petit groupe qui a créé l'association en 2006. Avant, jusque-là, on était relié à un autre LUG à Amiens, Eplug, qui nous ont aidés à nous lancer. Et donc, on a commencé à une dizaine d'adhérents il y a en 2006. Maintenant, on est 75 adhérents avec des actions un peu partout dans le département. Le groupe est surtout positionné à Beauvais. Nous avons plusieurs ateliers dans la semaine, mais il y a aussi d'autres ateliers à Nogent-sur-Oise, à Clermont-de-l'Oise, à Bury, dans des communes parfois plus petites, mis sur terrain par exemple. Donc je fais partie encore du groupe qui participe à l'organisation, à l'animation, sur le choix d'un programme, sur les lieux où on s'investit, sur les partenaires. partenaires avec qui on propose de travailler. Voilà, donc un peu toute la vie de l'association. Et donc, on s'organise ensemble d'une façon collective. Sinon, je représente aussi l'association dans des événements libristes ou dans des événements tout court, hein, de la vie civile, où on essaye de porter la parole du libre.
Très bien, merci beaucoup. Tu parlais, faisons abstraction du confinement pour un moment, donc tu me parlais des différentes activités de l'association OASUX, on va dire en temps normal, donc pas mal d'ateliers, participation à des événements, vous faites aussi des install parties, vous participez à des événements spécifiques et vous aidez les personnes, les lycées, mais aussi des structures. Il y a encore deux mois, tu me faisais un retour d'expérience sur la liste de discussion Libre Association. Donc, à l'April, il y a un groupe de travail qui s'appelle Libre Association, donc logiciel libre monde associatif. Et tu me faisais un retour sur cette liste d'expérience avec deux associations. Et bien, tout cela, en fait, se passe facilement. En présentiel, mais voilà, le confinement a un peu tout chamboulé. Donc, je voulais savoir, donc l'occasion de t'avoir aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment OASUX, l'association OASUX vit le confinement, comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous avez mis éventuellement en place pour assurer une certaine continuité dans vos actions.
Oui, là pour le passage en visioconférence, c'est en fait le groupe le plus moteur et le plus important de l'association, donc les Beauvaisiens, qui ont tout de suite converti les ateliers, par exemple du samedi matin, puisqu'on a deux temps forts dans la semaine. Le samedi matin, c'est plutôt une séance de formation où un intervenant présente un logiciel et forme des personnes à l'utilisation du logiciel. Et le mercredi soir, c'est plutôt un atelier ouvert qu'on appelle Auberge Espagnole, où là donc c'est ouvert, donc les gens viennent et puis c'est le jeu des questions-réponses, on s'interpelle les uns les autres, on partage des manipulations que l'on a faites, on accueille les personnes nouvelles qui viennent assez régulièrement vers nous, parce qu'elles peuvent avoir des questions. Les questions qu'on a eues ces derniers mois, c'était surtout par rapport au passage de 7 à Windows 10, qui en fait a fait beaucoup s'interroger des gens quand ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus à niveau point du logiciel et que bientôt il fallait qu'ils remplacent leur matériel. Donc là, ces demandes-là, on les a moins maintenant à cause du confinement, bien évidemment. Donc on a moins cette dimension d'accueil. Par contre, c'est le groupe qui continue à fonctionner et qui reste force de proposition. Et là, on a noté quand même une certaine évolution dans le sens où il y a eu pas mal de propositions un peu geek. On a jusqu'à fin juin un programme qui est affiché sur le portail OASUX.org où il y a un mélange de logiciels d'utilisation courante, hein, sur la messagerie, la navigation internet, le partage de fichiers, etc. Et puis aussi donc des thèmes un peu nouveaux pour nous qui ont été proposés par des gens qui sont un peu habitués à tout ce qui est utilisation des logiciels, même à distance, avec la visioconférence. Mais la partie des grands débutants et tout est un peu en carafe là, actuellement. C'est plus difficile pour eux de raccrocher au wagon, parce que c'est déjà un peu une expérience un peu délicate pour devenir un salon avec un poste qui fonctionne, avec une caméra, un micro, s'adapter au fonctionnement de la plateforme. Et puis après, en même temps, se rendre compte si on a la bonne version du logiciel, parce que l'intervenant, lui, il peut avoir une autre version du même logiciel. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal d'utilisateurs lambda qui adoptent, hein, les solutions libres complètes, hein, système d'exploitation et applications libres, qui nous ont fait signe comme quoi elles attendaient la fin du confinement. En gros, ça va être début septembre, le retour des ateliers pratiques, parce que la mairie de Beauvais a indiqué que les salles municipales ne seraient pas accessibles à l'activité publique jusqu'au 2 juin. Et en plus, bon, les événements familiaux, les grands rassemblements familiaux sont interdits jusqu'au 18 juillet. Donc, pour nous, l'année en présentiel, c'est un peu terminé. Donc, on se retrouvera en septembre. Et donc là, d'ailleurs, les mercredis soirs, on ne fait plus la partie auberge espagnole avec accueil transverse. On discute, il y a des petits groupes à gauche, à droite qui discutent de sujets divers et variés.
Pardon, je te coupe parce que c'est marrant, j'avais justement lu sur votre site, les auberges du mercredi ont été converties en réunion à thème, et du coup, justement, les auberges, je n'avais pas pensé forcément aux auberges espagnoles, et donc ça tombe bien, tu vas nous expliquer comment elles ont été converties.
Oui, c'est parce qu'on a essayé de les maintenir en auberge espagnole ouverte, et puis finalement c'était un peu les mêmes têtes qui étaient là, les membres animateurs, les membres permanents. On était quoi, 5 ou 6, puis en Europe, ce qui est bien comme deux piliers pour soutenir l'activité d'une association. Mais après, bon, on tournait un peu en rond. On se connaît bien maintenant, etc. Même si les personnes qui figurent parmi les piliers sont là que depuis 3 ans, mais il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Bon, donc, puis on échange pas mal par ailleurs. Donc, du coup, on a préféré rentabiliser et interrompre l'aspect réunion ouverte en réunion à thème comme le samedi matin pour un peu inciter les collègues, les adhérents de l'association, qu'on a perdu un peu ces derniers temps, de leur proposer des thèmes qui leur parlent et pour les inciter à nous rejoindre. Alors, bon, ça marche plus ou moins. En tous les cas, là, tous les thèmes qui sont dans le programme font suite. On a fait un sondage, en fait. Hein. On a utilisé Framaform. On a fait un sondage auprès des adhérents avec des propositions, leur demandant s'ils en avaient d'autres. Et après, on a fait une réunion en visioconférence avec Jitsi, hein, pour l'essentiel.
Et donc, vous allez vous demander quel outil vous avez choisi, justement.
Alors, donc, on a choisi meet.jitsi.org, meetjit.si comme adresse de base.
Après, en fait, on va peut-être rappeler, même si on en a parlé assez lors des dernières émissions de Libre à vous, on va rappeler aux personnes qui nous écoutent que Jitsi Meet est un logiciel libre, un logiciel un service de visioconférence. Étant un logiciel libre, bah, n'importe qui peut l'installer sur un serveur, donc il peut y avoir potentiellement un nombre infini d'instances. Voilà, et puis j'étais en train de nous dire quelle instance vous avez choisi pour vos visioconférences.
Oui, ben, au début on a testé celle-là. Bon, elle donne satisfaction. Après, on a eu des problèmes de débit, peut-être, si possible. Une fois qu'on est 10-12, ça commence à être un peu compliqué, puis en même temps on a fait notre apprentissage, un peu comme là l'émission aujourd'hui, là on coupe son micro si on ne parle pas, des choses comme ça, ben, c'est des choses qu'on a appris, hein, tout simplement. Et puis les webcams, c'est bien au début, mais une fois qu'on s'est identifié, on a reconnu les gens, on arrête les webcams et on écoute celui qui anime. Et qui peut montrer son écran, donc il explique ce qu'il fait avec un logiciel. Et après, même l'avantage qu'on a trouvé avec Meet Jitsi, c'est que l'animateur peut aussi demander à ce que les apprenants montrent leur écran. Ça lui permet de se rendre compte où en est les auditeurs. Et donc on s'est habitué, on s'est forgé un peu une expérience par rapport à ça. Pour des questions de test de débit, on est passé sur une autre instance qui est Réseaupol, qui vient de Lyon, l'association La Mouette et François Aubriot, etc. Et donc qui ont mis en service aussi des instances sur des serveurs dans la région lyonnaise. Et après, on a testé Scalway, donc une société au départ qui n'est pas forcément libriste, mais en tous les cas une grosse entreprise avec beaucoup de serveurs un peu partout, qui héberge des sites importants, etc. Et qui a mis à disposition des instances de Jitsi à l'adresse ensemble. Scalway.fr ou com, etc. Et donc nous on a pris une adresse. L'adresse n'est pas très pratique, alors on utilise un Framalink pour pointer vers le portail, vers l'instance qu'on utilise.
Peux rappeler qu'est-ce que c'est un Framalink? C'est peut-être pas évident pour toutes les personnes.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai une interface qui propose un lien court pour renvoyer vers une URL, une adresse web, un lien très long. Et donc, c'était un peu le cas des adresses Scalway, parce que contrairement à Jitsi à la base, on peut déclarer un nom de salon, et après, l'adresse est simple. Ce n'est pas possible avec Scalway, c'est l'adresse est imposée. Comme il y a plein de chiffres au début, plein de chiffres à la fin, franchement, c'est pas très pratique. Donc, du coup, on utilise le Framalink, et donc, faut aller sur l'adresse frama.link, et là, tout est expliqué. On met l'ancienne adresse, on propose une nouvelle, et si elle est acceptée, on peut la copier-coller dans le presse-papier, on peut la mettre dans un mail, et puis après, c'est une adresse facile à retenir, facile à utiliser. Quand on clique, on va directement sur Scalway.
Et très bien, donc un raccourcisseur de liens, et il n'y a pas que l'association Framasoft qui le propose, hein, c'est un service plutôt simple à installer, à déployer, et donc vous pouvez le trouver dans d'autres auprès d'autres structures, notamment auprès des structures qui font partie du collectif Chaton. Donc Marc, merci pour ce retour d'expérience. Si je peux, si je résume bien, disons la promotion du logiciel libre, l'aide envers les personnes initiées, voilà, c'est un peu mise en parenthèse dès par les conditions imposées par le confinement, et vous en avez du coup profité pour renforcer les liens entre les membres de l'association et vous rencontrer plus souvent, vous connaître mieux entre vous. Donc finalement, c'est vous avez trouvé quelque chose de très positif.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça va nous aider à l'avenir à aussi modifier notre organisation. Comme l'association est départementale, tant qu'il n'y a pas d'autres groupes qui sont capables de démarrer, d'être autonomes dans le département, pour traverser le département, il faut une heure. Donc c'est difficile pour nous d'organiser des choses à gauche, à droite. Et du coup, le système de visioconférence permet à des personnes qui habitent à 50, 60 kilomètres d'éviter de se déplacer. Donc c'est quelque chose qu'on va étudier à la rentrée prochaine en septembre. On va étudier le dosage parce que ce serait tentant de rester confortablement dans son fauteuil à la maison. Par contre, on va perdre une partie des gens et puis on va avoir du mal à recruter de nouvelles personnes. Donc c'est bien, ça consolide les liens sur le noyau de l'association, les gens un peu habitués, mais ça ne correspond pas forcément suffisamment à tous les profils. Sinon, un dernier point, je reviens sur les problèmes avec le matériel et puis le Windows 7 et les gens qui n'ont pas compris qu'il fallait se dépêcher de migrer. En fait, on a eu des demandes, non pas sur des pays fixes pour le coup, mais le stock, là, on a eu une dotation d'ordinateurs pour les collégiens qui ont été réformés, qui ont été mis à notre disposition, on en a 7 ou 8. Et du coup, des gens étaient en difficulté parce que chez eux, ils avaient besoin d'une solution pour accéder à des visioconférences. Et donc, du coup, on a ressorti, au lieu qu'ils restent à ne rien faire dans l'armoire, dans notre local principal, on les a ressortis et on les a mis à disposition de particuliers qui nous contactaient. Et du coup, on est en train de faire s'habituer des gens à un environnement qu'ils n'avaient pas forcément choisi au départ, mais à partir du moment où on leur proposait la solution, ils ont voulu la tester. Et là, on n'a que des retours positifs. Voilà.
Excellent, ça fait toujours plaisir d'avoir ces retours d'expérience positifs, encourageants. Marc, notre temps est fini pour la chronique d'aujourd'hui. Je souhaite te remercier beaucoup pour avoir accepté notre invitation.
C'était un honneur de la recevoir.
Eh ben, c'est un honneur aussi pour nous de t'avoir avec nous, et voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne route, et après on verra avec le temps comment les choses se organisent. Mais pour l'instant, je vois que le moral est très bon, et ça nous fait plaisir de continuer comme ça. Merci beaucoup,
oui.
Marc.
Oui, ce qui nous manque, c'est de retrouver les amis de... Mais bon, ça va bien revenir.
Ben écoute, merci Marc. Donc c'était Marc Épienne de l'association Oisux, oisux.org, et ma collègue Isabella Vanni. Je précise pour les personnes qui voudraient un retour d'expérience à la visioconférence, je les encourage avec le podcast de l'émission du 21 avril 2020 où Isabella a fait un retour d'expérience sur ses outils de visioconférence et notamment pour les activités sportives. L'occasion de découvrir, c'est de savoir si Isabella a utilisé un outil pour faire du stretching, du lancer de tronc d'arbre ou du tennis de table. Donc c'est le podcast du 21 avril 2020 sur causecommune.fm et sur april.org. Alors, notre émission se termine dans les annonces. Ben, demain, on se retrouve à 13h, donc mercredi 6 mai 2020, de 13h à 14h, pour la spéciale, la playlist de Libre à vous, avec Valentin. On va diffuser des musiques libres et on va les commenter. Enfin, Valentin va les commenter. Il y a les podcasts des émissions précédentes qui sont déjà disponibles en ligne. Nous souhaitons également la bienvenue à Isidore et à Margot et toutes nos félicitations aux heureux parents. Donc l'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Pierre-Yves Dillard, Luc Bourgon, Épienne, Isabelle Vanni, aux manettes de la régie aujourd'hui. William Agazari qui gère les émissions Cyberculture le samedi et Pour Cause le mardi. Vous retrouverez toutes les références sur le site cité aujourd'hui sur les sites april.org et causecommune.fm. Je remercie également Sylvain Kutzmann et Olivier Grieco pour le traitement des podcasts. Quentin Gibault qui découpe les podcasts. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. On va faire une pause pendant une quinzaine de jours, donc on se retrouve mardi 26 mai 2020, et d'ici là, portez-vous bien.